le speed dating de l'immobilier. Organisé par Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, vendredi 3 septembre 2021, en direct sur Radio Imo.
Eh bien, rebonjour les amis, merci d'être avec nous, vous avez été avec nous toute la matinée, c'est sympa, merci pour les mots que vous nous avez envoyés. Effectivement, ça reprend, hein. Ça reprend plutôt même bien, on a de la chance, il fait très beau. Et nous, on est toujours ici pour cette 8e édition du Speed Dating d'Arkéa à la Maison de la Chimie. Alors moi, je ne vais pas bouder mon plaisir, je le vois régulièrement. Il nous a vu naître un peu quelque part, oui, il nous a vu naître il y a presque 6 ans, jour pour jour. Je l'avais rencontré pour la première fois au SIEC, c'est un acteur connu et incontournable dans l'immobilier en France, à la tête du groupe éponyme, puisqu'il s'appelle Antoine Frey. C'est Antoine Frey qui est avec nous sur le plateau.
Bonjour.
Président du groupe Frey. Comment ça va, Antoine ?
Ça va super bien.
Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Alors, le marché a plutôt bien repris. On vient de passer un confinement compliqué, une crise sanitaire assez tragique. On a perdu quelques amis. Tout à l'heure, on parlait avec Julien Carmona, de notre ami commun, Jean-Philippe Ruggieri en particulier, mais je pense aussi au patron de SPI Batignol, de SPI Immobilier, qui est aussi décédé à l'âge de 49 ans. Bref, un virus que personne n'avait vu venir, qui a mis à genoux les économies de la planète, faut dire les choses comme elles sont. Comment s'est comporté le groupe Frey ? En quoi a-t-il été impacté, s'il a été impacté ? Et comment vous voyez-vous, Antoine, aujourd'hui la reprise telle qu'on peut l'imaginer ? Est-ce que vous êtes résolument optimiste, plutôt serein, ou inquiet, ou alors questionnant, on va dire ?
L'impact de la crise sur le groupe Frey sur l'année 2020, il a été réel, hein, puisque dès que le premier confinement est arrivé, on a mis en place tout de suite un fonds de soutien pour aider nos locataires. Ce fonds de soutien, on l'a alimenté grâce au volontarisme des actionnaires du groupe, hein, puisque j'ai proposé à l'époque aux actionnaires du groupe de distribuer une grosse partie du dividende en actions et donc de faire une augmentation de capital grâce à ça, qui a permis d'abonder et de financer un fonds de soutien pour soutenir nos locataires. Donc on a mis plus de 15 millions d'euros dans ce véhicule. Et puis, on a eu des projets qui ont été décalés dans le temps. Deux gros projets, Strasbourg et Clessouilly, qu'on a livrés cette année, alors qu'on devait les livrer l'année précédente. Des valeurs d'actifs qui ont été dépréciées par les experts, comme toutes les foncières. Donc, on a fait une année 2020 sur laquelle on a sorti un résultat net quasiment nul, alors qu'on sort habituellement une cinquantaine de millions d'euros de résultats. Mais on l'a traversé malgré tout sereinement pour une raison essentielle, c'est qu'on a une LTV très sobre, très faible. On est peu d'été, on n'a pas de soucis de liquidité, donc on a géré la crise très, très sereinement. L'année 2021, elle est très différente. Déjà, y a des dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour aider les commerçants et les restaurateurs, etc. Et donc, ça a permis de prendre
plutôt,
le relais.
Ça a plutôt bien marché.
Ça
va s'arrêter là.
Hein, ça va s'arrêter. La pompe à morphine va être débranchée, mais il faut reconnaître quand même que le sprinkler financier d'aide qui a été mis en place, il a bien fonctionné. Ouais. Et ça, il faut quand même reconnaître ça à l'État, même s'il y a des effets dilatoires. C'est long, il faut attendre que l'Europe donne son accord, etc. Mais ça a quand même bien fonctionné. Ce qui a très très bien fonctionné dans le commerce, et surtout dans le commerce de périphérie, de plein air, c'est qu'on a été moins impacté que les autres formats de commerce, hein. On a été moins fermé que les grands centres commerciaux en termes de durée de fermeture. Et puis, on n'est pas embêté par les problématiques de passe sanitaire que subissent aujourd'hui les centres commerciaux qui leur font beaucoup de mal. À chaque déconfinement, les chiffres d'affaires sont repartis de façon spectaculaire. Ça a été incroyable. Il y avait une appétence, une envie de consommation qui était quand même assez folle. Sur certaines catégories de commerçants, des commerçants qui ont totalement récupéré le chiffre d'affaires.
Quand on mesure, si on devait à périmètre constant, nonobstant le confinement, c'est plus par rapport à une année.
Aujourd'hui, depuis le début de l'année 2021, on a des commerçants qui font plus de chiffre d'affaires qu'en 2019.
Oui. Intéressant.
Oui.
Et vous l'attribuez quoi, une volonté de consommer ? Est-ce que l'épargne constituée par les Français ?
On l'attribue, oui, à cette épargne constituée, une soif de consommation, une envie de retourner dans les lieux de commerce. Les gens ont été privés de quelque chose, ils se sont aperçus que le commerce physique, c'était quand même essentiel, parce que c'est un endroit où on se retrouve. Donc il y a eu une très très forte appétence. Ça a très bien marché. Et puis on a bénéficié aussi d'un effet report de clients qui n'allaient pas dans les centres commerciaux fermés, parce qu'ils étaient fermés pour le coup des mesures sanitaires.
Alors, il faut dire aussi que vous avez une particularité, Antoine, mais on on l'a déjà publié, bien évidemment, c'est que vous prenez un soin particulier à faire du beau. Je m'explique, du beau avec une vraie expérience. Quand on va dans l'un de vos centres, il y a une vraie expérience à la fois esthétique, à la fois sur le loisir, à la fois sur aussi la multipolarité de l'offre que vous avez là-dessus. Ça a quand même beaucoup contribué. Pourquoi ? Parce que c'est aussi, alors je ne vais pas dire qu'on y va comme une sortie, mais pourquoi pas ? Ça peut être aussi une sortie, ça peut être aussi intéressant de le faire. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, cette exposition, vous l'avez dit, plein air, dans les nouveaux usages par rapport aux centres commerciaux, est-ce que ça va s'accentuer ? J'ai lu un article anglo-saxon qui disait la chose suivante. Les grands malls, c'est terminé. Ils ont vécu, ils ont très bien vécu. On va aujourd'hui vers une restitution plus hybride, plus centrale, intéressante, parce qu'on intègre plus la ville dans ces périmètres-là, et le plein air, des villages de marques, des outlets, etc. Est-ce que quelque part, finalement... vous n'en sortez pas si mal avec la stratégie que vous avez adoptée depuis le début. Vous ne saviez pas, bien évidemment, mais...
Je le savais, le Covid, il y a 20 ans, je le savais. Non, mais...
C'est fou, non, mais... Parce que, faut être clair, vous connaissez vos collègues, hein, vous avez été à la tête du CNCC aussi. Il y en a qui ont quand même salement dérouillé, quand même, dans les centres commerciaux, pour le dire. Il n'y a que les passes sanitaires qui n'ont rien arrangé du tout. Vous en êtes, le groupe Fraisse s'en est extrêmement bien sorti.
S'en est très bien sorti. Je vais vous donner un chiffre qui va vraiment illustrer les choses. Sur l'année 2021... La collecte des loyers du groupe, elle est à 90% sur le premier semestre.
C'est incroyable. Bon, il n'y a pas d'équivalent. Enfin, sur les dossiers qu'on a préparés cette année, à part l'initiative qu'avait pris Philippe Journaud il y a quelques mois d'écraser 25 millions d'euros de loyers, quand même, ce qui n'est pas neutre, c'était catastrophique, il faut le dire la vérité. Comment l'année ? Vous avez les marques sont les mêmes, les...
Non, on a un modèle économique dans ces lieux de commerce de plein air qui est assez différent du modèle économique des grands malls, des grands centres commerciaux.
C'est-à-dire ?
Un taux d'effort qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Le niveau de loyer et de charge perçu dans nos lieux de commerce n'a aucune commune mesure avec celui qui est perçu dans les grands centres commerciaux. Le taux d'effort moyen chez Frey, il est à 8,5%. Dans un grand centre commercial, il oscille entre 15 et 20 en fonction des centres.
Oui.
Donc, les enseignes, en fait, regardaient depuis longtemps avec appétit la frugalité de notre modèle économique, mais ne venaient pas parce qu'on n'apportait pas à l'époque l'expérience qu'on apporte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans nos lieux de commerce, l'expérience y est là. Et là, elle est même parfois, très sincèrement, meilleure que dans un centre commercial.
Ah,
et c'est
oui.
moins cher.
Ah, mais oui,
on a livré à Strasbourg et à Clé-Souilly deux actifs importants au mois de mars, en plein Covid. Ouvert à 98%, on a signé des enseignes qu'on n'avait pas avant. Nature et Découverte, à Clé-Souilly, qui n'était jamais venu en retail park.
Très juste.
Hein
ça veut dire que
Rituals,
ces marques qui allaient...
Nike.
Alors, oui, justement, ces marques qui allaient dans les grands malls, dans les grands centres commerciaux, en fait, ils s'aperçoivent que votre modèle est pertinent. Votre modèle fonctionne. Vous faites des émules, ça veut dire quoi ? Que les gros acteurs aujourd'hui internationaux, finalement, vont essayer de copier le modèle ? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'usage, dans la maîtrise d'usage, est-ce que votre modèle ne va pas devenir quelque chose qui va s'installer, je ne vais pas dire en remplacement, je ne vais pas aller jusque-là, mais en très large compensation de ce que représentaient les grands centres commerciaux, dont on voit que l'affluence a radicalement baissé.
Alors, je vais forcément être tenté de vous répondre oui, puisque c'est le modèle que l'on pousse.
Collègues, concurrents, amis, néanmoins, mais ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, dans le modèle, c'est sans appel. En termes d'affluence, en termes de signature, et vous l'avez rappelé, vous avez un modèle économique hyper adapté. Donc cette frugalité ou cette sobriété, comme on voudra l'appeler, elle est tout à fait en ligne directe avec les soucis qu'ont les grandes marques aujourd'hui de gérer de façon très scrupuleuse leur façon de faire.
Ces enseignes aujourd'hui, elles ont besoin de trouver dans un magasin un 3-en-1. Avant, un magasin, c'était simplement un endroit où se rencontrait une offre avec de la marchandise disponible et une demande qui venait, qui passait devant, voiture ou à pied. Bon, ça reste toujours ça pour une grande partie de la fonction du magasin. Mais un magasin, c'est aussi aujourd'hui un point logistique du dernier kilomètre pour la stratégie omnicanal.
Absolument.
De ces enseignes et un showroom. Donc ces enseignes qui ont pendant des années maillé finement le territoire français en multipliant le nombre d'ouvertures, elles se disent aujourd'hui, bon, est-ce que j'ai besoin de toujours autant de magasins sur une agglomération ? La réponse est non.
Pas sûr, oui, tout à fait.
Par contre, les magasins dont j'ai besoin doivent être plus beaux, plus grands, plus expérientiels pour pouvoir justifier la visite d'un utilisateur, d'un consommateur physiquement.
C'est presque une expérience esthétique.
C'est presque une expérience esthétique. Mais pour que le magasin puisse être plus grand, plus beau, plus puissant, plus spectaculaire, il ne faut pas que le mètre carré coûte trop cher. Ouais. Puisque dans le compte de résultat de cette enseigne, l'enseigne doit libérer de la place dans son P&L pour payer sa visibilité online aussi. Donc ce taux d'effort disponible il est plus aussi important qu'avant. Et c'est pour ça que ces enseignes se tournent aujourd'hui vers cette typologie d'actifs qui leur apporte l'expérience, la frugalité, la convivialité et un modèle économique dans lequel...
C'est la raison pour laquelle cette typologie d'actifs aujourd'hui supplante dans une certaine mesure dans cette vision stratégique, parce que vous avez raison. Entre 15 et 20% de taux d'effort, ça devient plus tolérable à l'aune finalement d'un contexte inédit. Personne n'avait vu venir une tragédie sanitaire. On a tous pensé à un séisme, on a tous pensé à une guerre éventuellement. Et une chose auquel on n'a pas pensé, c'est une épidémie. Ceci dit, dans le XXe siècle, il y en a eu 4 quand même. On s'en souvient pas, mais il y en a eu 4. Mais aujourd'hui, dans l'évolution, sur le plan de la consommation justement, est-ce que, vous savez, à un moment donné, on parlait de tout digital, vous savez... On dit, ah, les commerçants vont fermer, les centres-villes sont morts, etc. etc. Alors, c'était vrai pour certaines villes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'avec justement cette expérience qui nous a mis à distance, parce que franchement, c'est chiant les visios, de ne pas rencontrer les gens, de ne pas aller au contact, on est quand même très heureux de se rencontrer. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un paradoxe dans cette expérience à la fois digitale, de revenir à quelque chose de plus prosaïque, de très humain, de très endémique, de presque reptilien, l'envie de se toucher, d'être au contact. Et du coup, votre modèle, quand on le voit, et moi je vous encourage les amis à aller dans vos centres, il est fait pour ça. Vous avez inventé une nouvelle agora. Alors, agora économique, agora de commerce, mais aussi une agora de culture, une agora ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vertueux ? Est-ce que les élus locaux, par exemple, disent « Votre modèle, franchement, c'est top. Il faut qu'on le développe. Il faut qu'on se rapproche. » En plus, il est multipolaire. Vous pouvez le modifier, votre modèle.
Ce n'est plus un centre commercial, en fait. C'est un centre d'intérêt collectif. On y agrège du commerce, de la restauration, du loisir. OK, ça ressemble à un centre commercial, mais on y agrège aussi une maison des associations, un magasin solidaire, un collectif de producteurs en circuit court, des écoles,
top, ça.
Une maison médicale. Donc en fait, autour d'un fil rouge qui est la convivialité, on s'aperçoit que ces lieux de commerce sont l'agrégateur d'une multitude d'autres sources d'intérêt collectif. Et ça marche. Les gens en ont été tellement privés. Mais rendez-vous compte, pendant des mois, le commerce physique était fermé. Mais moi, j'aurais été Jeff Bezos, mais je me serais dit, oh là, c'est fabuleux, c'est l'Amérique, je vais devenir riche. Mais il était déjà. Mais en fait...
Bah, il a quand même pris 37 milliards de plus.
À son niveau, après 37 de plus ou 37 de moins, je pense que ça ne lui change pas sa vie. Mais en fait, c'est peut-être une malédiction pour lui, parce que les gens se sont rendus compte que, en fait, ce contact physique... Ce qui est bien l'essence de l'être humain, c'est la préservation de l'espèce. Pour préserver l'espèce, il faut qu'on se touche. Mais... hein, voilà. Bon. Ou alors, si on arrive à préserver l'espèce sans se toucher, je ne veux plus être là ce jour-là, ça ne m'intéresse plus de faire partie de cette espèce. Et donc, ces lieux de commerce, on en a crevé de ne plus les avoir.
Absolument, absolument. Et ça, c'est intéressant parce que, en dehors du cadre financier, de vos actionnaires, des comptes de résultats, etc., allez, on va réenchanter l'idée. Et mettre un peu de vision. C'est-à-dire que cette agora, elle a permis aussi cette rencontre dans des lieux qui sont à la fois esthétiques, qui sont ouverts à tous. Vous avez dit maison d'association, culture, santé, éducation. Ce n'est pas des choses qu'on monétise forcément, mais qui ont toute leur place dans un espace dans lequel on a un équilibre. Dernière question. Je sais que les foncières aujourd'hui, les grosses foncières cotées ou non cotées, deviennent extrêmement opportunistes en termes d'allocation d'actifs. Logique. L'hôtellerie ou le para-hôtelier fait un carton, l'hospitality, les résidences seniors, résidences étudiantes, structures médicalisées aussi, bien évidemment. Et on décilote complètement. Voilà. Il y a vraiment un décilotage parce qu'effectivement, il y a une espèce de on a beaucoup ébranlé les certitudes des assets, des experts, des analystes financiers et autres. Est-ce que le groupe prêt, on sait que vous êtes très orienté sur certaines classes d'actifs, est-ce qu'un jour vous allez vous ouvrir, est-ce que le groupe prêt pourrait devenir un acteur du logement, du bureau, de l'hôtellerie, le commerce, ça vous parle, mais voilà, est-ce que quelque part, vous en tant que patron du groupe, vous dites, voilà, attendez, on va avoir une stratégie très opportune parce qu'on a des relais d'influence, parce qu'on a des propositions de valeur à faire, des vrais projets, ou pas, comme ça se fait avec vos confrères.
On cherche à rester excessivement centré sur
votre métier.
Le cœur de notre savoir-faire, parce que pour une raison simple, c'est qu'il est rare ce savoir-faire. On est peu nombreux en France à être capables de manipuler l'objet commerce. Des opérateurs capables d'aménager, de construire, de développer un commerce qui marche. Il n'y en a pas beaucoup en France. Donc on reste concentré sur cette force qui me paraît être la plus discriminante. Néanmoins, étant donné que ces zones commerciales périurbaines sont le stock de terres artificialisées sur lesquelles immanquablement demain la ville va se construire, on sera amené à participer à d'autres classes d'actifs.
Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs pour...
À Strasbourg, on a co-créé 400 logements.
Mais oui,
donc en fait, on ne va pas demain devenir un producteur de logements.
Non, mais vous savez le faire.
En tant qu'aménageur de ces zones...
Voilà, aménageur. Mais vous savez le faire.
Mais on sait le faire, oui.
Et donc, c'est intéressant, c'est qu'en fait... Il n'y a pas de certitude marquée dans le marbre en disant, voilà, le schéma économique est linéaire. Non, je tiens compte des réalités, vous tenez compte des réalités. En plus, vous avez un actionnariat multipolaire auquel vous devez aussi rendre des comptes. Donc, et vous avez dit tout à l'heure une chose très intéressante, c'est que l'entreprise n'a pas souffert du manque de liquidité. L'entreprise a bien impacté la crise parce que vous l'avez finalement bien gérée. Et donc, aussi, une des leçons de cette pandémie, ça a été aussi une grande leçon d'humilité pour beaucoup de patrons d'entreprise. Parce qu'on a tous pensé que la prospérité était infinie, que l'argent coulait à flot, etc. Et heureusement qu'on a eu des États qui ont joué le jeu. Mais c'est aussi la mise en relief d'entrepreneurs toujours aussi responsables, qui ont bien géré leur entreprise. Preuve, c'est que vous avez très bien impacté cette crise, etc. Alors je parle de vous parce que je sais ce que vous faites, mais c'est important aussi de rendre grâce aux entrepreneurs qui ont su rendre pérenne notre entreprise. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué.
On aime les modèles, chez Frais, on aime les modèles détendus. Un modèle détendu, c'est un modèle dans lequel le commerçant a un taux d'effort soft pour que... Moi, je ne veux travailler qu'avec des gens qui gagnent leur vie.
Oui, en fait, vous voulez... Oui,
vous comprenez très, donc, c'est ce un commerçant qui supporte un loyer sans que ça le mette sa vie en danger.
Non, c'est clair.
Et nous, un niveau d'endettement et une position de liquidité qui nous permet de faire face à n'importe quoi.
Ok, ça a l'air évident quand vous le dites. Mais il y a certaines entreprises pour lesquelles c'est compliqué. Je ne cite pas de nom, bien évidemment. Il y en a certaines qui en ont payé le prix cher, très cher, bien évidemment. Vous savez très bien. Aussi, Antoine Frey, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, comme d'habitude.
Plaisir partagé.
J'espère qu'on aura le plaisir, qu'on n'attendra pas un an et demi ou deux ans pour se revoir. Mais je sais que vous êtes toujours disponible sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Antoine Frey, président du groupe Frey. Merci Antoine.
Merci, à bientôt.
Le speed dating de l'immobilier, organisé par Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.